Pierre me dirigeait ça avec son équipe, bien apprécié. On continue évidemment ce sujet de la grâce. J'ai bien aimé tous les cantiques, mais un des cantiques nous parlait du miracle de la grâce. C'est un miracle. Et on avait commencé à voir ensemble il y a 2 semaines, ceux qui étaient là, un passage clé pour nous expliquer c'est quoi l'Évangile de grâce. Parce que ce qu'on avait besoin d'entendre avant d'être chrétien, si nous sommes tous chrétiens ce soir, c'était l'Évangile de grâce. Et vous n'êtes pas chrétien ce soir, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Et une fois qu'on est sauvé, contrairement à ce qu'on peut penser dans notre vie chrétienne, on a encore besoin d'entendre prêcher l'Évangile de grâce. On a besoin de se la prêcher à tous les jours pour ne pas tomber dans une surculpabilisation dans nos mauvaises journées spirituelles puis d'éviter de tomber dans une sorte de pharisianisme chrétien lorsqu'on a des bonnes journées spirituelles. Je pense que c'est trop bon. Et je vous invite à tourner dans Romains chapitre 3, si vous avez vos Bibles, Romains chapitre 3. Et on va relire cette portion des Écritures qui est le cœur de l'Évangile. Tu sais, si on devait perdre tous les autres versets de la Bible puis qu'on ne se retrouvait seulement qu'avec Romains 3, 19 à 26, on aurait tout l'Évangile. Alors, un passage assez précieux et assez important. Cet Évangile de grâce que Paul d'une manière extraordinaire, décrit en quelques versets seulement. On va lire ces versets-là, et je me plais toujours à dire que la lecture pure et simple de la parole de Dieu, c'est la partie parfaite du message. Après ça, ça se gâte un peu. Mais Romains 3, verset 19. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et comme je disais l'autre fois, quand on lit ça d'une traite, des fois on peut dire « ouf, c'est du stock pas mal d'une shot », puis c'est pas toujours évident. Mais on a commencé à voir ensemble ces ingrédients, ces éléments de l'Évangile de grâce, puis brièvement, on va revoir les quelques points qu'on avait vus ensemble. Première réalité de l'Évangile de grâce, personne n'est déclaré juste devant Dieu en observant la loi. Donc ça, c'est déjà en partant. Personne n'est déclaré juste en observant la loi. On l'a dans le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et là, on a le verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. C'est assez clair, pas besoin de gros commentaires, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et donc, la grâce, c'est de réaliser en partant que personne n'est déclaré juste devant Dieu en observant la loi. Personne ne peut le faire. Rappelez-vous mon illustration avec un savon ivory la semaine passée, ou là 2 semaines plutôt, hein, où le savon ivory prétend que c'est 99,94% pur, mais ce n'est pas suffisant pour aller au ciel. Ça prend 100% de pureté pour entrer au ciel. Donc, premier point, personne n'est déclaré juste devant Dieu en observant la loi. Un autre point qu'on avait vu ensemble, il y a une justice de Dieu toutefois sans la loi. Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi, manifestez la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Troisième point qu'on avait vu ensemble, cette justice de Dieu, comment qu'elle est reçue? Par la foi en Jésus-Christ. Alors, on a vraiment dans ces textes tous les éléments de l'Évangile de grâce. Personne ne peut être justifié par la loi, puis il y a une justice de Dieu sans la loi, puis comment on s'approprie cette justice-là? Bien, on a la réponse dans ce merveilleux texte qui nous dit, bien, c'est par la foi en Jésus-Christ. Verset 22a va dire, justice de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Quatrième élément de cet Évangile de grâce, cette justice est disponible, et ça c'est une bonne nouvelle, est disponible à tout le monde, sur la même base. Pourquoi? Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. On est tous dans le même bateau. Verset 22b, verset 23, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, une justice disponible à tous parce qu'on est tous pécheurs. Au pied de la croix, on est tous au même niveau. Il n'y a pas des petits pécheurs, des gros pécheurs, on est tous pécheurs. Tous perdus. Ils placent leur foi en Jésus-Christ, sont justifiés gratuitement. On était rendu là à ce point-là. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, parce qu'on a appris tantôt que le moyen, c'est par la foi, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont justifiés gratuitement. Par quoi? Par la grâce de Dieu. Verset 24a, la clé. Ben, tu sais, le texte s'explique par lui-même. C'est ça la beauté de la parole de Dieu, ça s'explique par la parole de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Justifier, c'est être absous de toute charge de culpabilité. Déclaré absolument juste. Je répète, être justifié, c'est être absous de toute charge de culpabilité qui pesait sur nous. Puis, du même moment, d'être déclaré absolument juste. Seulement sommes-nous déchargés de toute responsabilité de la colère de Dieu à cause de notre culpabilité, mais nous sommes personnellement acceptés par Dieu à cause de Christ. C'est une grande doctrine, la justification. Être déclaré juste, nous qui étions des coupables, nous qui ne pouvions pas observer la loi pour être sauvés. Mais lorsqu'on croit en Jésus-Christ, il se passe quelque chose d'extraordinaire, on est déclaré juste. On a la commission Charbonneau qui souhaiterait être déclaré juste dans ce temps-ci. Les maires aussi. La justification, c'est comme les deux côtés d'une médaille. D'un côté, nous sommes déclarés non coupables devant Dieu, donc on est déclaré non coupable, c'est une chose, ça. C'est une nouvelle déjà. Mais de l'autre, nous sommes positivement déclarés justes à travers Christ, donc non coupables, mais plus que ça, juste. C'est ça la grâce, le miracle de la grâce. Nous sommes comptés à la vue de Dieu comme ayant parfaitement obéi à la loi de Dieu. Permettez-moi l'expression, c'est capoté. On est compté à la vue de Dieu comme ayant parfaitement obéi à la loi de Dieu. Incroyable l'évangile de grâce. Puis on va approfondir cette réalité-là dans les autres versets. On doit garder à l'esprit que notre justification par Dieu est fondée seulement sur l'œuvre méritoire de Christ et notre union avec lui. Nous voit légalement si connectés avec Christ que ce qu'il a fait, c'est comme si on l'avait fait. Quand Jésus a vécu une vie d'obéissance parfaite, c'est comme si nous, on l'avait vécu, cette vie d'obéissance parfaite. C'est vraiment spécial, la substitution. Il est mort sur la croix pour satisfaire les justes demandes de la loi de Dieu, c'est juste comme si nous étions nous-mêmes morts sur cette croix il y a 2000 ans. Il a tenu notre place comme notre représentant, à la fois dans sa vie sans péché, puis à la fois dans sa mort où il a porté nos péchés. Le sens du début du fameux Galates 2:20, un beau cantique aussi, « J'ai été crucifié avec Christ ». Et là, on rentre vraiment dans quelque chose, je n'allais pas dire mystérieux, mais c'est vraiment grand. Là. Lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur, je lui donne ma vie, je l'accepte comme sauveur et seigneur dans ma vie, il se passe cette justification où je deviens mort en Christ et avec Christ. Si maintenant, quand Dieu me regarde à travers son Fils, c'est comme si c'était moi qui avais vécu cette vie parfaite-là. C'est comme si c'était moi qui avais vécu cette mort-là pour les péchés. J'ai été crucifié avec Christ. Ainsi, vivre par l'Évangile veut dire que nous saisissons fermement le fait que la vie et la mort de Christ sont nôtres en vertu de notre union avec lui. Ce qu'il a fait, nous l'avons fait. Et c'est seulement en ce sens-là qu'on peut vraiment comprendre les affirmations audacieuses de Paul. Il fallait de l'audace pour dire ce qu'il a dit dans Romains 8:1, sans tourner. Et maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On était des coupables. Sur quelle base il peut dire ça? Par notre justification, par la foi. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est intéressant, le chapitre 8, verset 1, arrive après cette fin du chapitre 7 où il y a cette lutte de Paul. Hein? Je fais le mal que je ne veux pas faire, je ne fais pas le bien que je veux faire. Une lutte qu'on a tous au quotidien, cette lutte spirituelle. Puis là, il y a cette lutte, puis Paul, je suis content parce que c'est un gars comme vous autres. Il est fait, c'est un homme. On ne peut pas le mettre sur un piédestal dans le sens que ce n'est pas quelqu'un qui est à part. Non, non, il est humain, il est pécheur, puis il vivait comme chrétien ce combat spirituel. Après ce combat spirituel, où il y a ce milieu, chapitre 8, verset 1, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malgré mes luttes, malgré mes chutes. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'Évangile de grâce pour ne pas se surculpabiliser lorsqu'on chute. Penser trop bon quand on va bien. Puis quel verset 31 merveilleux, je pense, du chapitre 8, sans tourner, qui dit « Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? » Ou encore, verset 33, « Qui va accuser les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. L'ennemi n'a plus de poigne. On est justifié pour toujours, par grâce. Rappelons-nous cet évangile dans notre vie quotidienne. Lorsqu'on pêche, lorsqu'on est déçu de nous autres mêmes. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, des fois, ça m'arrive souvent, d'être déçu de moi-même comme chrétien. Se repentir, et les fidèles et justes pour nous pardonner de toute iniquité. Et se rappeler, hey, je suis justifié, je suis sauvé par grâce. Les affirmations de Paul sont des vérités objectives, c'est-à-dire qu'elles sont vraies, qu'on les saisisse ou pas. C'est une réalité. Hein? Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. C'est une vérité objective. À cause de nos échecs fréquents devant Dieu, nous nous sentons sous la condamnation. Nous ne sentons pas que Dieu est pour nous, mais plutôt qu'il est sûrement contre nous. Et nous pensons qu'il apporte des charges contre nous, hein, quand on pêche, puis quand on sent un bon chrétien. Là. L'impression que Dieu nous regarde. Là. Dans quel moment nous devons nous prêcher l'Évangile? Nous devons revoir ce que Dieu a déclaré comme vrai au sujet de notre justification en Christ. Puis en autant que Dieu est concerné, la justification est une œuvre complétée. C'est complété. La pénalité a été payée. Sa justice a été satisfaite une fois pour toutes. Quelle expression qu'on retrouve souvent dans l'hébreu d'ailleurs, une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes. Mais ça doit être reçu, le texte nous le dit, par la foi. Et ça doit être continuellement renouvelé dans nos âmes et appliqué à nos consciences chaque jour à travers la foi. La cour de justice avec laquelle on doit faire affaire, la cour de Dieu dans le ciel, puis de la conscience de nos âmes. Quand nous avons cru en Christ pour le salut, la cour de Dieu a été satisfaite pour toujours au ciel. Un acte d'accusation ne sera porté contre nous au ciel. Par contre, nos consciences nous prononcent continuellement coupables. On a beau être déclaré juste au ciel, par notre marche quotidienne imparfaite, souvent on se déclare encore coupable. La fonction de la conscience, d'ailleurs. Nous devons par la foi amener le verdict de la conscience en ligne avec le verdict du ciel. Nous faisons ça en étant d'accord avec nos consciences au sujet de notre culpabilité, mais alors nous rappeler que notre culpabilité a déjà été portée par Christ. Et cette justification, il nous est dit qu'elle nous a été donnée, nous dit le texte, gratuitement. Par sa grâce. Le mot « gratuitement » veut dire « sans paiement d'aucune sorte ». On ne peut pas acheter son ciel, on ne peut pas acheter notre justification, c'est gratuit. La justification ne peut être achetée par le paiement de nos bonnes œuvres. Il n'y a aucun échange de valeur entre le pécheur et Dieu, c'est un acte absolument gratuit de sa part. Et la gratuité de la justification avait même été prédite par le prophète Ésaïe. De tourner dans Ésaïe 5.1. Je vais tourner un peu dans vos Bibles. Ésaïe 5.1. sais pas si c'est la bonne. Je pense pas que c'est le bon texte. Je vais essayer de le trouver au pif, comme on dit. Ou 55.1. Je pense que c'est ça. Il manque un petit 5 sur ma feuille, je crois. De mémoire. OK, c'est ça. 55.1. Excusez. 55.1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. C'est gratuit. Ce matin, on méditait au pas du Seigneur avec grand-mère sur cette histoire avec la femme samaritaine, qui est une histoire fascinante, extraordinaire, où la femme samaritaine voit le Seigneur Jésus s'appuyer sur le puits fatigué. L'histoire commence où le Seigneur lui demande de l'eau. C'est elle qui a de quoi pour lui donner de l'eau, mais l'histoire tourne rapidement de bord. C'est le Seigneur qui offre de l'eau à boire, de l'eau vive. Et celui qui vient à Christ n'aura plus jamais soif. Et cette grâce, elle est complètement gratuite. Et c'est là qu'on revient avec notre chère définition de la grâce lorsqu'on parle de gratuité. La définition de la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu démontrée à ceux qui méritaient sa colère. On méritait sa colère, puis on a cette grâce, cette faveur imméritée de Dieu à notre égard. Sur quelle base? Sur sa grâce, sur son amour. La grâce présuppose la culpabilité de notre part, sinon on n'aurait pas besoin de grâce. La grâce de Dieu, c'est qu'on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on est coupable. Puis on ne peut pas s'en sortir par nous autres mêmes. Ça prend la grâce. Imaginez si Dieu n'avait pas été un Dieu de grâce. On ne serait pas ici à soir. On serait perdu pour l'éternité. Dieu n'est sous aucune obligation d'accorder à aucun d'entre nous une telle faveur imméritée. Dieu n'est sous aucune obligation d'accorder à aucun d'entre nous une telle faveur méritée. Note intéressante, Dieu n'a pas accordé une telle faveur aux anges qui ont péché. Une fois que les anges avaient péché, c'était fini. 2 Pierre 2,4, sans tourner, dira que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, les réserves pour le jugement. Quelle grâce qu'il nous a faite à nous autres, les hommes, les êtres humains. Les anges n'ont même pas eu. Un coup que tu étais déchu, tu étais déchu. Wow! Seigneur, pourquoi? Jean 3,16. Car Dieu nous a tant aimés. C'est âme. Il nous a tant aimés, c'est pour ça qu'au verset 15 de Jean 3, il va dire il faut que le Fils soit élevé sur une croix. Comme le serpent a été élevé dans le désert pour sauver ceux qui étaient qui s'étaient fait mordre d'une morsure mortelle. Puis ça, la solution est simple dans le désert, hein, c'était de regarder au serpent des reins. La solution est simple pour être sauvé, c'est de regarder à Jésus-Christ sur la croix. Puis les personnes qui sont tellement religieuses, veulent tellement faire quelque chose pour aller au ciel, bien, c'est trop facile, cette solution-là. C'est trop simple. Mais quelle grâce! Vraiment béni. La décision de nous accorder une telle faveur origine uniquement à l'intérieur de sa propre bonté. Dieu est bon. Et on l'a chanté tantôt, un paquet de cantiques extraordinaires tantôt, on a chanté. La bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu. Donc, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu. Autre texte. Cette justification maintenant, oui, c'est par la foi de notre côté. Mais c'est plus commun dans les faits, c'est à travers de la rédemption qui est venue par Jésus-Christ. Verset 24b, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est quoi la rédemption? C'est d'être délivré par le paiement d'une rançon. Puis j'aime bien le fait de réaliser, vous savez, Dieu sauveur, c'est un beau titre. Mais Dieu rédempteur, ça veut encore dire plus. Ça implique qu'il y a eu un prix à payer. Acheter de la colère de Dieu, c'est pas rien. Et le prix de notre rédemption, c'est le sang de Christ. C'est extraordinaire, Romains 3, 19 à 26, on a tout l'Évangile. Oui, la justification, c'est un acte gratuit de Dieu en autant que nous sommes concernés, ça ne m'a rien coûté pour être sauvé. C'était totalement gratuit pour nous, cela en fait a été acheté par Christ avec son sang. Précieux de Christ, à quel prix? Inimaginable, le sang du Fils de Dieu. qui a été versé pour payer ma justification. Alors pour moi, c'est merveilleux, c'est gratis. Je n'ai qu'à croire. Mais regardez le prix que ça lui a coûté. Christ a payé la rançon qui nous a délivrés de la juste et sainte colère de Dieu. Puis je pense qu'à ce point, c'est utile de distinguer la justification d'un simple pardon. Un pardon peut être accordé gratuitement par un président, un gouverneur, pour aucune raison, parfois au détriment de la justice. Puis dans le plan de justification de Dieu, toutefois, la justice n'est pas violée par un pardon gratuit d'un pécheur condamné. La justice a été satisfaite. La pénalité a été complètement payée par le Seigneur Jésus-Christ. Et en un sens, justifié, c'est déclarer que les revendications de la justice ont été pleinement rencontrées. Besoin de nous reposer davantage sur l'œuvre de Christ qui satisfait les demandes de la loi de Dieu. Un de mes derniers éléments de cet évangile de grâce, présenter Jésus comme un sacrifice d'expiation à travers la foi en son sang. J'ai mis à l'écran la version Darby parce que je trouve que je vais vous le lire dans la version seconde. Je trouve qu'on échappe une richesse dans la version seconde qu'on a dans la version Darby. Regardez dans la version seconde, que vous avez peut-être pour la plupart, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour, etc. Mais le verset, le texte littéral, qui est plus littéral, regardez-le à l'écran. Le Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Ça, c'est l'élément clé. Montrer sa justice à cause du support des péchés, précédant à la patience de Dieu, afin de montrer, dis-je, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Donc, il est capable de nous justifier tout en restant juste. Pourquoi? Parce que le prix a été payé. Parce que le sang a été versé. Puis, il y a cette expression par la foi en son sang. Présenter Jésus comme un sacrifice d'expiation à travers la foi en son sang. Victime propitiatoire. Je pense qu'on ne l'a pas dans la version... Dieu a présenté pour propitiatoire. On a victime propitiatoire dans la seconde. D'autres versions parleront de sacrifice expiatoire. C'est des grands termes qui nous font peur des fois, mais... La victime propitiatoire, c'est quoi? C'est qu'elle détourne la colère de Dieu vers elle. En prenant le péché sur elle. C'est ça, une victime propitiatoire. La victime propitiatoire détourne la colère de Dieu puis l'amène vers elle. Puis prend le péché sur elle. Une image rapide de ça, de la même façon qu'un paratonnerre protège un bâtiment de la foudre, la loi sur laquelle Christ a été livré comme victime propitiatoire protège le pécheur de la colère de Dieu. Il est devenu une sorte de paratonnerre pour nous. J'aime ça l'appeler la croix, c'est un paracolère. La colère qui m'était destinée, justement, comme pécheur, parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, cette colère, Christ l'a détournée sur lui. Il a eu notre paratonnerre. Cette victime propitiatoire. Il a décidé par grâce de prendre la colère qui m'était destinée et de la subir. À ta place. Parce que, écoutez, s'il y a expiation, si on parle de propitiation en soi, c'est qu'il y a colère de Dieu. Colère de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu, oui, d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, mais c'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est juste, puis un Dieu qui est en colère. Et on a une responsabilité face à sa juste et sainte colère. Regardez dans Romains, tournez dans Romains si vous n'êtes pas revenu, dans Romains 1, 18, évidemment, on connaît ce texte-là, puis après ça, on retournera dans Romains 3. Romains 1, 18, la colère de Dieu. Puis c'est intéressant parce que là, l'Épître aux Romains, évidemment, ça développe toute cette nécessité d'être justifié. Puis ça commence avec la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. Il y a une colère de Dieu. On va dire dans Romains, puis on retournera tantôt, mais dans Éphésiens 2, 3, on n'est pas loin. Éphésiens 2, 3. Verset 1, parce que ça nous montre comment on est, comment on était si on est chrétien ce soir, mais comment on est tout le monde lorsqu'on vient au monde. Éphésiens 2:1, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, il ne faut pas oublier ça. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de quoi? De colère. Comme les autres. On est tous dans le même bateau. On vient au monde et on a la colère, de Dieu qui pend au-dessus de notre tête. On a l'épée de Damoclès. Dans cet état-là, c'est le jugement qui nous attend. Donc, Éphésiens 2:3 nous dit que nous étions par nature des enfants de colère. Puis derrière le mot « propitiation », il y a cette idée d'apaiser cette colère de Dieu contre le péché. En colère, c'est à cause du péché. Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, a apaisé, a détourné la juste et sainte colère de Dieu qui nous était destinée, que nous aurions dû supporter. Quelle grâce! Deux remarques importantes concernant cet acte de propitiation de la part de Christ. D'ailleurs, on l'a dans le texte. C'est Dieu qui a présenté Christ comme propitiatoire. C'est Dieu qui l'a destiné à être victime propitiatoire. C'est Dieu qui a pris l'initiative de sacrifier son Fils. Abraham et Isaac, on la connaît tous dans Genèse 22, hein, où par amour et pour montrer son amour à Dieu, est prêt à sacrifier son Fils, Isaac. Regardez, à la croix du calvaire, Dieu, pour montrer comment il nous aime, il a sacrifié son Fils. Il l'a pas aimé. Alors, il était encore pécheur. Il l'a présenté pour propitiatoire, qu'il l'a destiné, dira second, à être victime expiatoire. Ça dit quoi, ça, ce texte-là? Ça nous dit que c'est Dieu le Père qui a initié le plan complet du salut. C'est Dieu le Père qui a pourvu le sacrifice de son Fils pour satisfaire sa justice, apaiser sa propre colère. Il n'avait pas à faire ça. Il a voulu le faire. Quand nous sommes conscients de notre péché d'une manière aiguë et que nous pensons que la colère de Dieu doit suspendre en quelque sorte au-dessus de nous, hein, des fois que lorsqu'on pêche, puis lorsqu'on est désobéissant, lorsqu'on pense qu'on n'est pas un bon chrétien comme on devrait l'être, puis là on pense que Dieu est encore, la colère nous prend au-dessus de la tête encore, là. Besoin de se rappeler que Dieu le Père lui-même a mis au point une façon où sa colère contre le péché peut être complètement exécutée sans qu'on expérimente la force de cette colère. Tombé une fois pour toutes il y a 2000 ans sur Christ. La vérité que je veux qu'on se rappelle ce soir, c'est Dieu qui a choisi le moyen d'expier mes péchés. Deuxième vérité, le pécheur que nous sommes s'approprie cette propitiation. C'est dur à dire vite, ça, s'approprie cette propitiation. Pas être fatigué. S'approprie comment cette propitiation? C'est là que le texte de Darby est primordial. C'est par la foi en son sang. Le sang de Christ qui réfère à sa mort doit être l'objet de notre foi par laquelle nous nous approprions sa propitiation. Le sang de Christ en lien avec notre salut, d'ailleurs, c'est une expression préférée des auteurs du Nouveau Testament. On le retrouve à peu près 30 fois, ça. Le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ. C'est le sang de Christ qui purifie nos consciences des œuvres mortes. C'est le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. C'est par le sang de Christ que nous avons cette assurance d'entrer dans le lieu très saint. En présence même d'un Dieu infiniment saint que nous avons, c'est par le sang de Christ qu'on a cette libre entrée dans le sanctuaire, Hébreux 10, 19. Entrer devant Dieu sans le sang de Christ. Et selon le passage dans Romains qu'on a examiné, c'est le sang de Christ qui détourne de nous la juste et sainte colère de Dieu. Et quand on se retrouve sous la conviction de péché, quand on réalise qu'on a manqué une fois de plus envers Dieu, peut-être même avec le même péché, on doit recourir au sang purificateur de Jésus. Bien content, la dernière fois que je suis venu, c'est Maurice Ricard qui a fait ce chant-là. Un bon vieux cantique du 19e siècle, numéro 109 dans le bon vieux chant de victoire. Pour ma justice, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Le refrain de dire, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Simple, ça, mais profond. Hein? Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus. Dieu propice mes œuvres? Non, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau en plus. Rien d'autre, je ne veux plus rien que le sang de Jésus. Ce n'est pas notre contrition, ce n'est pas notre tristesse pour notre péché, ce n'est pas notre repentance, ni même le fait de passer un certain nombre d'heures durant lesquelles nous sentons que nous sommes sur une sorte de probation qui nous purifie. C'est le sang de Jésus. C'est une fois pour toutes au calvaire, il y a 2000 ans. Sang de Christ versé une fois pour toutes au calvaire il y a 2000 ans, mais approprié quotidiennement et même plusieurs fois par jour, c'est ça qui purifie nos consciences et qui nous donne un sens renouvelé de la paix avec Dieu. J'apprécie tellement le repas du Seigneur dans nos milieux pour se rappeler dimanche après dimanche. Puis c'est pas une routine, c'est un besoin essentiel de se rappeler dimanche après dimanche le sang de Christ. Nous purifie de tout péché. Ça passe par la croix. Les symboles nous parlent-tu fort, vous pensez? Dieu savait-tu ce qu'il faisait qu'il a institué la Sainte Seine? On avait besoin de se rappeler de lui, de se rappeler comment ça avait coûté. En uniquement du sang de Christ. L'Évangile de grâce. Tellement de belles vérités qu'on a dans ce texte-là. Et évidemment, lorsqu'on retourne dans le texte, dans Romains 3, c'est pas pour rien qu'il... Romains 3, 26, d'ailleurs, on l'a encore à l'écran. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Verset 27, on l'a pas à l'écran, c'est « Où donc est le sujet de se glorifier? » Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Pensons, dira Paul, verset 28, que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Quel texte extraordinaire! Que le Seigneur vraiment réchauffe nos cœurs comme croyants. Et si ce soir tu n'as jamais fait ce pas envers Jésus-Christ, fais-le. Parce que le sang de Christ a été versé. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est gratuit pour nous. Quiconque vient à lui, il n'a rien payé, on l'a vu dans Isaïe 55. Venez, c'est gratuit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pas dit que je chargerai quelque chose, non, je ne charge rien. Il cœur, il veut qu'on croit en lui. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce beau texte dans Romains 3 et merci de cette inspiration que tu as donnée à Paul pour écrire ce condensé de l'Évangile de grâce. Où, Seigneur, on réalise qu'on ne peut être sauvé par l'obéissance à la loi à cause de notre péché. On réalise qu'on est tous dans le même bateau, il n'y a aucune distinction. On a tous cette possibilité d'être sauvés par la foi. Et que le moyen que tu as décidé dans l'éternité passée, c'est par la rédemption à travers le sang de Christ. Et Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir pourvu un sacrifice, à une victime propitiatoire. Parce que Dieu, tu es justifié d'être en colère envers ta créature. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le juste jugement. Mais Père, ton Fils a subi cette colère à ma place, à notre place. Quel grand amour! Et Seigneur, lorsqu'on place notre foi en ce sacrifice, on est sauvé. De la même façon que dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient regardé au serpent d'airain étaient guéris de leur morsure mortelle. Le moyen semble banal, simple, simpliste pour ce monde moderne. Mais c'est toujours le même moyen, par la foi en Jésus-Christ, qui a versé son sang. Garde-nous collés sur l'Évangile de grâce à chaque jour de nos vies. Lorsqu'on chute, et on chute, Seigneur, tu connais nos vies. Lorsqu'on peine avec nos péchés, lorsqu'on tombe dans les vieilles habitudes pécheresses, lorsqu'on est déçu de nous-mêmes, Seigneur, rappelle-nous que tu as payé notre prix. Et qu'on se repent et qu'on se tourne vers toi, et tu es fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Et Père, merci parce que tu es un Dieu patient, un Dieu qui nous aime, un Dieu de grâce. Et tu savais qui on était, comment on était, et malgré ça, tu as envoyé ton Fils. Bénis ton peuple au Cap de Madeleine. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.